toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur Radio Zaï pour une nouvelle émission que nous lançons aujourd'hui. Poésie et vie. Un échange immersif et poétique, un moment de communion artistique composé de mots, images, rythmes, pensées, philosophies et réflexions. Tout ce qui représente l'art, en somme, tout ce qui représente la vie. Poésie, poésie. Une expérience sensorielle et authentique à vivre en podcast et également sur les réseaux sociaux, sur Radio Zaï, la web radio d'Aix-en-Provence. Pour cette toute première émission, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Michel Guérin, écrivain, universitaire et philosophe français. Bienvenue cher Michel Guérin à Radio Zaï, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Avant de commencer notre discussion, permettez-moi d'informer nos amis auditeurs que chacune de nos émissions sera centrée autour de trois axes. Poésie, poésie, un bref regard sur la littérature, la poésie, la philosophie, l'art, la vie. Dans la deuxième partie que j'ai intitulée « Pensée, pensement », nous présenterons une pensée du jour qui peut être une citation, une réflexion ou un vers de poème. Une pensée qui nous adoucit comme du baume au cœur, qui nous apaise et nous réconforte comme un pansement. Une pensée, pansement. Et enfin, l'instant Prévert, un moment d'hommage au poète Jacques Prévert. Puisque Radio Zaï est hébergée par la Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert d'Aix-en-Provence, nous voulons rendre hommage au poète, un instant de poésie qui lui sera dédié. Cher Michel Guérin, vous avez un parcours professionnel et littéraire magnifique, très riche et très vaste, et il me faudrait beaucoup de temps pour mentionner l'ensemble de vos activités. Néanmoins, je veux le rappeler brièvement pour nos auditeurs. Vous êtes écrivain, universitaire et philosophe, né à Nantes, agrégé, vous enseignez dans l'enseignement secondaire pendant une bonne dizaine d'années. Vous avez eu une carrière diplomatique et universitaire en Allemagne, en Autriche, en Grèce. Vous avez collaboré avec de nombreux éditeurs, Grasset, Actes Sud, où vous avez eu une collection pendant quelques années. Et qui s'appelait « Qu'est-ce qu'est une œuvre ?»
Le génie du philosophe.
Le génie du philosophe. C'est le premier ouvrage, il me semble, de cette collection.
C'était « Qu'est-ce qu'une œuvre ?» en effet.
Et vous avez publié ici plusieurs ouvrages, dont « La terreur »,« La pitié » et d'autres livres. Certains de vos pièces de théâtre ont été diffusées sur RFI et France Culture, qui étaient d'abord montées à Athènes, il me semble, en Grèce. C'est bien ça ?
C'est ça.
Et vous avez aussi, donc, bien sûr, en tant que philosophe, mené de nombreuses recherches. Et moi, ce qui m'a le plus attiré l'attention par rapport à mon émission, c'est votre programme philosophique, puisque la réflexion, en fait, que vous avez développé se concentre autour de quatre piliers de recherche. Une pragmatique de la croyance, une théorie culturelle de la sensibilité moderne, appuyée sur les études notamment du 19e siècle, une théorie de l'œuvre, de ses dimensions, de ses limites, et une méditation sur la transparence comme mode post-métaphysique de la véracité après la fin des phénomènes, exténuation de la phénoménologie. Et quand je lis tout ça, je me dis que nous sommes aussi dans la poésie. Parce que nous retrouvons cet aspect global de l'art, de la recherche, de la sensibilité. Il y a tout qui est dans la philosophie et dans la poésie. Le sujet, la thématique qui m'intéresse pour moi aujourd'hui, c'est la poésie philosophique. Comment se manifeste, selon vous, ce lien de nos jours entre la poésie et la philosophie ?
Mais vous avez déjà un petit peu défriché le terrain quand vous avez souligné qu'on avait sans doute depuis quelque temps mis fin au système philosophique, c'est-à-dire que l'état actuel, notamment des connaissances, de la science, de la technologie, font que les anciennes manières de penser qui visaient à rassembler la totalité de ce qu'on pensait être l'expérience humaine dans un système qui rassemblait, qui ramassait tout, je pense que ça, on y a renoncé. Mais pour autant, on n'a pas renoncé à la philosophie comme questionnement, comme interrogation sur l'énigme de l'univers et sur l'énigme que nous sommes nous-mêmes. Et quand je dis l'énigme, je pourrais dire, pour ceux qui sont croyants, le mystère. Moi qui ne suis pas croyant, je préfère dire l'énigme, parce que ça n'engage à rien sur le plan religieux. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que nous sommes dépourvus en très grande partie, alors que nous sommes au sommet, apparemment, de nos certitudes sur un plan scientifique. Eh bien, ce sommet se renverse en abîme, parce que finalement, nous savons beaucoup de choses très, 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 très précises, beaucoup, beaucoup. Mais sur l'ensemble, nous sommes dans l'incertitude absolue. Et peut-être jamais le monde n'a connu, comme aujourd'hui, une période aussi incertaine à tous égards, au point que cela nourrit, de la part de certains, le déclinisme, le catastrophisme, en tout cas une interrogation tout à fait extraordinaire, je dis bien extraordinaire, comme peu d'époques, sans doute, en expérimenté. C'est pour ça que la poésie nous est précieuse, parce que justement, elle ne prétend ni au système, ni à une explication. C'est le contraire d'une explication. Elle travaille dans la suggestion, dans l'incantation, dans tout ce qui fait que notre vie quotidienne, on le voit bien avec quelqu'un comme Prévert, lorsqu'on veut vraiment la mettre en valeur, cette vie quotidienne, elle est pleine de poésie. Moi, j'ai très bien connu, je n'ai pas connu Prévert, c'est pas la même génération, mais j'ai connu quand même à la fin de sa vie quelqu'un comme Eugène Guillevic, dont la poésie, par certains côtés, bon, elle est plus de l'ordre de l'haïku, de quelques vers très brefs, vous savez, mais elle se rapproche un petit peu de Prévert en ceci qu'elle est populaire et surtout elle se branche, si j'ose dire, sur la vie quotidienne, sur des choses extrêmement simples. Par exemple, lorsqu'il dit que les mots sont des épées avec lesquelles on perce les ventres des brouillards. C'est une image, mais ça renvoie en même temps à la vie quotidienne. On se lève le matin, il y a un brouillard épais, on n'a pas envie tellement de faire quoi que ce soit. Et puis tout à coup, il y a les mots qui viennent, il y a la poésie qui vient.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que exactement cette époque donc on connaît tous, c'est la technologie avancée, c'est l'époque de l'intelligence artificielle, et c'est cette époque-là qui peut être aussi un avantage pour la recherche, pour la médecine, mais c'est aussi un inconvénient pour la poésie et la philosophie. Vous avez connu, vous avez rencontré de nombreux écrivains, de nombreux poètes, dont René Char, qui a une poésie magnifique, quelle que soit l'époque. Pouvez-vous nous dire quelque chose de la rencontre avec René Char ?
Oui, alors ma femme et moi avons connu et fréquenté d'assez près, c'était une chance extraordinaire, René Char, qui était notre voisin d'ailleurs dans le Vaucluse, dans le Luberon plus précisément. Lui était près de l'Île-sur-Sorgue au Buscla et nous étions à ce moment-là à Bonnieux, nous avions une maison à Bonnieux, donc dans un village du Luberon. Nous étions jeunes, 30, 35, 40 ans. Lui était à la fin de sa vie et il avait l'extrême gentillesse. Il nous faisait la faveur de nous recevoir de loin en loin. Moi, je lui envoyais mes premiers livres, je lui ai dédié un de mes livres. Et à chaque fois, c'était des conversations. Conversation, le mot ne convient pas. C'était plutôt nous qui écoutions, parce que René Char, au fond, parlait comme il écrivait. C'est-à-dire que il parlait en vers. Comprenez bien ce que je veux dire, il ne s'étudiait pas, c'était pas des choses qui étaient rhétoriques, c'était même le contraire de la rhétorique, mais c'était à chaque fois des pointes extrêmes de pensée. Vous savez, c'était pas de la philosophie, c'était de la pensée. Je crois qu'on ne peut pas parler, à proprement parler, de poésie philosophique. Ça, c'est peut-être le défaut chez Hugo que vous avez cité. Quelquefois, il y a une poésie philosophique, c'est-à-dire elle est abstraite, elle sacrifie un certain nombre de clichés et de généralités. Pas de ça chez René Char, certainement pas. Vous avez raison de dire que chez lui, il y a quelque chose d'intemporel. Je dirais il y a quelque chose d'immémorial. Et une de ses grandes inspirations, c'était la Grèce des présocratiques.
Vous avez fait des recherches aussi, ce qui est l'un de vos domaines aussi, la
Absolument.
Grèce, donc vous savez.
Oui, bien sûr. J'ai eu la chance aussi de vivre quelques années à Athènes. J'étais directeur de l'Institut français. et conseiller culturel de l'ambassade, et donc dans cette Grèce moderne, d'une certaine façon un peu laide, parfois pleine de béton, un petit peu crash par certains côtés, ben, je sentais quand même quelque chose qui remontait à ce 5e siècle avant Jésus-Christ.
Oui, mais ça, c'est la partie du quotidien, on va dire. Et c'est aussi de la poésie, ça fait partie. Mais ce qui est incroyable avec René Char, vous avez bien fait de le souligner, c'est que c'est ce souffle qui lui donne de l'actualité, c'est-à-dire de l'intemporel qu'on disait. C'est que lorsque nous lisons, on a l'impression qu'il parle d'aujourd'hui et qu'il l'écrit sur aujourd'hui. Parce que c'est le monde, il est le monde depuis qu'il existe. Et René Char, il a su capter le cœur de chaque instant.
Finalement, une œuvre n'est intéressante que parce qu'elle dit son temps, son époque, mais elle le dit de manière unique, de manière singulière. Elle le dit comme si cette époque était universelle. Eh bien ça, il y a peu d'auteurs, d'artistes qui y parviennent. C'est un petit peu ce que disait Arthur Rimbaud. Il faut être moderne, mais il faut être, dit-il, absolument moderne.
Oui. On sait bien qu'on en parle de ça, parce qu'on va justement parler de l'actualité et de l'oubli. Est-ce que nous avons besoin de la poésie ?
Ben, la poésie aujourd'hui, je crois que paradoxalement, elle se porte plutôt bien. Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, le 3 juin, il y a à Paris, dans le 6e arrondissement, place Saint-Sulpice, le marché de la poésie.
Annuellement, chaque année.
Voilà. Qu'il y a ce soir, à 19h, au Panthéon, un hommage du grand philosophe allemand Peter Sloterdijk à Victor Hugo. Et qu'il y a un nombre d'éditeurs de poésie, qui sont des petits éditeurs, bien entendu, qui ne sont pas des grands industriels du livre, qui ne sont pas des Grasset. Mais qui sont extrêmement nombreux et qui surtout savent détecter les véritables poètes. Et moi, je vois sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, mais aussi en lisant ici ou là certains journaux, il y a un nombre de poètes aujourd'hui de grande qualité, très très important. Alors évidemment, ils ne vendent pas des quantités d'ouvrages, c'est évident. Mais vous savez, ils ne vendent pas moins que les philosophes.
De toute époque, la poésie ne se vende pas, mais elle est là pour... Je pense que le rôle est ailleurs que...
Oui, mais elle est là, elle est là. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas là. Oui. En dépit, si vous voulez, de conditions qu'on pourrait considérer comme défavorables. Vous avez vous-même tout à l'heure cité à juste titre les nouvelles technologies, cette espèce de positivisme calculateur qui imprègne un petit peu nos mentalités, eh bien, justement, ça, d'une certaine façon, ça permet de résister. Ça booste, ça soulève une résistance qui est extrêmement, extrêmement vivace aujourd'hui, je crois.
Ça rejoint notre deuxième partie qui s'appelle « Pensée-pensement » avec la pensée du jour. C'est une citation de Milan Kundera. « Être possédé par l'actualité, c'est être possédé par l'oubli ». Alors pourquoi cette citation ? Parce que je trouve qu'il y a un lien secret chez Kundera, mais pas seulement, qui existe entre la lenteur et la mémoire, entre la vitesse et l'oubli. Est-ce qu'elle s'inscrit, elle est plutôt ancrée dans l'actualité ou dans l'oubli ?
C'est vrai que le danger qui nous menace tous aujourd'hui, et qui menace en particulier les adolescents, on peut le constater aisément quand on regarde dans les familles ce qui se passe, c'est ce danger de présentisme qui consiste à sauter du coq à l'âne, qui consiste à passer 3 heures par jour ou 4 ou 5 sur des écrans à faire son marché de choses inessentielles, qui se chassent, qui s'entrechassent, qui sont toutes différentes mais toutes semblables, qui n'apportent rien d'essentiel, rien de fécond, et qui finit par nous déshabituer de la réflexion, c'est-à-dire de ce minimum d'intériorité sans lequel un individu ne peut pas être ce qu'il est. Il ne s'agit pas de prétendre se connaître, on est bien loin du principe, du fameux précepte delphique, mais au moins de se fréquenter un peu soi-même, c'est-à-dire de retourner de temps en temps à l'intérieur de soi pour essayer de comprendre ce qu'on vit.
Mais cela, c'est les livres, n'est-ce pas, Monsieur Guérin, qui nous permettent, parce que c'est ces instants de recueillement, de retrouver avec soi-même, c'est les lectures. Et ça, d'ailleurs, nous encourageons beaucoup nos jeunes et beaucoup de nos auditeurs. Ce sont des jeunes qui lisent. Et notre radio aussi a fait beaucoup pour promouvoir, entre autres, la lecture chez les jeunes. Mais c'est tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire que dans cette époque, pour pouvoir se retrouver, nous avons heureusement les livres. Et puis, la poésie et la philosophie sont des vrais appuis par rapport à ça.
Oui, mais le problème, c'est que nous avons des livres, bien sûr, mais un, encore faut-il les lire, parce que c'est vrai qu'il y a des bibliothèques, on se plaint toujours qu'on n'a pas de moyens, mais on en a comme les époques précédentes n'en ont pas eu, on peut acheter beaucoup de livres. Il y a des institutions pour ça, il y a des bibliothèques. Le problème, c'est qu'il faut faire venir, notamment les jeunes gens à la lecture, et il faut les faire venir à une lecture qui ne soit pas... comment dirais-je, une lecture de mode. Vous parlez de la philosophie, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Ben, vous avez des philosophes de médias, vous avez des philosophes qui ont le rouleau de serviette dans les radios ou dans les hebdos et qui vous donnent un avis sur tout, tous les jours, etc. Bon, je ne veux pas citer de nom, mais chacun reconnaîtra ceux dont je parle. Évidemment, ce ne sont pas des philosophes, hein. Que effectivement, quand on a réponse à tout, c'est en général qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on n'a pas travaillé. Donc je reprends mon idée, c'est bien qu'il y ait des livres, et il y en a beaucoup, mais il y a trop de livres inutiles. Et toute la question stratégique, c'est comment faire venir le lecteur de telle manière qu'il lise des livres qui ne sont pas d'entrée de jeu vendus, hein, promus par un système mercantile, mais qui sont pourtant les livres auxquels un jour on arrivera si on a envie quand même de faire quelque chose de sa vie de plus intéressant que d'être simplement un curieux qui va de média en média.
Vous avez participé donc lors d'un échange sur France Culture l'année dernière pour l'hommage à Victor Hugo, 130 ans depuis sa mort. Comment on pourrait mieux caractériser les œuvres de Victor Hugo rapportées à notre époque ?
Victor Hugo, curieusement, il a eu une période de pénombre, posthume. Il n'a jamais été, évidemment, oublié, parce que c'est un personnage tellement immense que on a beau avoir l'esprit un peu tordu et paradoxal, on ne peut quand même pas le passer par perte et profit. Mais disons qu'aujourd'hui, je pense qu'on le redécouvre sous un jour un peu rafraîchissant, un peu roboratif. Auparavant, on avait tendance à regarder le grand homme, quoi, le panthéon, hein, le caractère un peu officiel et un peu le grand homme de la Troisième République. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de trouver chez Victor Hugo, dans l'œuvre de Victor Hugo, des aspects qui nous concernent nous aujourd'hui. Alors c'est vrai en poésie, hein, on n'a pas le temps d'en parler longuement, mais en réalité, chez Hugo, vous trouvez déjà en préfiguration presque toutes les tendances que la poésie du XXe siècle va explorer. Que vous preniez la légende des siècles, que vous preniez les rayons et les ombres, où là vous avez des chants, des romances un peu faciles, un peu populaires, que vous preniez les contemplations, les chants du crépuscule, vous avez toutes les... Et alors, que vous preniez l'art d'être grand-père, le dernier recueil de Victor Hugo, dédié à ses petits-enfants, Jeanne et Georges, vous avez des poèmes qui sont des poèmes, je dis bien des poèmes surréalistes. C'est-à-dire qui pourrait être écrit par Paul Éluard ou par André Breton. Donc, on trouve aujourd'hui chez Victor Hugo un petit peu des choses qu'on voyait avant, mais qu'on ne voyait pas de façon assez nette. Et alors, comment voulez-vous passer à côté d'une œuvre comme Les Misérables ? Et d'ailleurs, on se trompe si peu sur l'importance de ce livre, dont Malraux rappelait qu'à un moment donné, il était aussi autant vendu que la Bible dans le monde entier. Comment peut-on passer à côté de ce livre qui est une mer, qui est un océan, hein. J'ai écrit récemment dans... Vous avez cité l'émission de Géraldine Ullmann, dans laquelle, effectivement, je suis intervenu pour parler du bien et du mal chez Victor Hugo. Ben, il se trouve que, sortant de cette émission, je crois que c'était en mai 2025, j'ai écrit aussitôt, dans la foulée, un texte assez long sur la lumière de Victor Hugo. Et ce texte, je le signale, a été publié par la revue Europe. C'est pas le précédent numéro, mais c'est celui d'avant.
Nous allons passer à notre troisième partie, qui est l'instant Prévert. À chaque émission, une personnalité, un passeur, qui partage sa passion pour la poésie, nous fera la lecture d'un poème de Jacques Prévert. Ce sera notre hommage au grand poète. et sur cet instant Prévert que l'émission va s'achever. Merci à tous de nous avoir suivis sur Radio Zaï. Merci à vous, Michel Guérin, d'avoir été avec nous. À bientôt pour une nouvelle page de Poésie Poévie sur Radio Zaï, chanson de la scène de Jacques Prévert, tirée du recueil spectacle paru aux éditions Gallimard en 2008, lu par Michel Guérin.
La scène a de la chance. Elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit. Et elle sort de sa source, tout doucement, sans bruit. Sans sortir de son lit et sans se faire de mousse, elle s'en va vers la mer en passant par Paris. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis. Et quand elle se promène tout au long de ses quais avec sa belle robe verte et ses lumières dorées, Notre-Dame, jalouse, immobile et sévère, du haut de toutes ses pierres, la regarde de travers. Mais la Seine s'en balance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit. Et s'en va vers le Havre, et s'en va vers la mer, en passant comme un rêve au milieu des mystères, des misères de Paris.